Bonjour Jérôme Bachet, c'est un plaisir pour nous en fait de vous avoir ici à Dijon et dans le cadre en fait de la fête des lentières qui fête sa 7e année. Vous êtes ici pour présenter les œuvres qui ont été créées à l'occasion, je crois, d'un grand rassemblement ou quelque chose comme ça.
Comparte por la Humanidad, organisé par les Zapatistes au Chiapas, au Mexique. En juillet de l'année dernière, rencontre à laquelle ils avaient convié des artistes du monde entier. Et à l'occasion de cette rencontre, les Zapatistes eux-mêmes, donc les villages rebelles du Chiapas, les habitants de ces villages ont réalisé eux-mêmes leurs propres créations, donc soit sous forme de pièces de théâtre, de poèmes, de chansons, de peintures, de sculptures. Donc ça a été une dizaine de jours très très riches, très intéressantes. Et ils ont ensuite décidé, c'est-à-dire maintenant, de faire circuler certaines des œuvres qui pouvaient circuler, donc principalement les peintures, partager leur expérience. Et leur expérience, c'est la construction de ce qu'ils appellent l'autonomie, c'est-à-dire des formes d'auto-organisation et d'auto-gouvernement qu'ils construisent depuis plus de 20 ans. Depuis le soulèvement armé du 1er janvier 1994. Ce soulèvement armé a été le moyen, alors sous une forme militaire qui s'inscrit dans toute la tradition des luttes de guérilla latino-américaine, mais qui a été en fait le point de départ qui a permis de créer un espace politique, aussi de solidarité, de rencontre des luttes au niveau du Mexique et aussi au niveau international, puisqu'il y a aussi un soutien international assez important qui est vital aussi pour les zapatistes. Voilà, tout cet espace-là, c'est l'espace qu'ils ont créé pour construire donc, ce qu'ils appellent l'autonomie, c'est-à-dire encore une fois donc, des formes d'auto-organisation et d'auto-gouvernement, puisque ça suppose, en fait, c'est des territoires qui se sont totalement dissociés, qui construisent leur mode de vie totalement en dehors du système institutionnel mexicain, c'est-à-dire donc en refusant tous les programmes d'assistance développés par les gouvernements mexicains et en construisant leurs propres autorités politiques, leur propre système politique. Donc ils ont vraiment construit entièrement, à partir de rien et en dehors totalement des institutions existantes, un véritable système politique qui fonctionne à trois niveaux, au niveau des villages, donc ils appellent des communautés, au niveau des communes, donc il y a 28 communes autonomes, et ces communes se coordonnent elles-mêmes en 5 zones, et chaque zone à ses propres autorités qui sont les conseils de bon gouvernement, donc qui coordonnent l'action, le développement de l'autonomie et l'action des communes autonomes. À chacun des niveaux, il y a des autorités élues et il y a des assemblées, et donc toutes les décisions se prennent par une espèce de processus d'interaction entre les assemblées, les autorités élues, et tout ça souvent avec des allers-retours entre les différents niveaux, puisque quand on prend une décision au niveau de ces grandes régions, il faut quand même consulter et faire débattre sur ces questions-là au niveau des différents villages. Et donc il y a des allers-retours entre ces différents niveaux de l'autogouvernement. Mais donc c'est quand même un système assez complexe, assez élaboré, qui s'est construit en fait pas du tout comme ça d'un seul coup, mais progressivement, hein, en commençant justement par les échelles les plus locales, hein, celles des villages, et puis ensuite les communes autonomes qui sont déclarées fin 1994, et puis ensuite les conseils de bon gouvernement au niveau régional qui se sont créés en 2003. Donc tout ça est un processus qui se construit pas du tout à partir d'un plan préétabli, mais voilà, dans une construction collective qui, comme ils disent, chemine en posant des questions, hein, donc avance comme ça en fonction de la manière dont l'expérience se déroule, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, de ce qu'il faut rectifier, de ce qu'il faut toujours transformer pour s'adapter ou résoudre les difficultés qui se présentent au fur et à mesure. Donc la logique de l'autonomie, c'est ça, c'est quelque chose qui n'est pas décidé à partir d'un principe préétabli, d'un schéma préétabli, mais qui se construit dans un processus permanent en fait. L'expérience des Zapatistes, elle se déploie dans un territoire qui est à peu près l'équivalent de la Belgique ou de la Bretagne. Donc c'est un territoire très important, c'est très grand, donc ça pose des problèmes d'échelle qui sont évidemment pas les mêmes que si on parlait de quelques villages.
Et c'est un territoire homogène ?
Alors non, effectivement, il faut préciser tout de suite que c'est pas un territoire homogène. Dans ce territoire, il y a des communautés zapatistes, il y a des communautés non zapatistes. Parfois même dans les mêmes villages, il y a des zapatistes et des non zapatistes. Donc toute la population de ce territoire n'est pas entièrement ralliée à la cause zapatiste. On parle d'un territoire qui est très grand, donc dans lequel en fait il y a des régions différentes au point de vue historique, au point de vue climatique et donc au point de vue des types de cultures. Donc parfois développer de nouveaux villages et aussi développer là des projets de collectifs qui sont ceux qui, en plus du travail réalisé pour l'autosubsistance des familles, des formes de travaux collectifs qui sont pour le coup nouvelles et qui permettent en fait de soutenir là aussi matériellement le fonctionnement de des réalisations de l'autonomie. Parce que l'autonomie, donc, c'est une forme d'autogouvernement dont on a parlé, qui aussi rend la justice, hein, c'est aussi une dimension très importante. Et puis il y a tout un système d'éducation autonome. Hein, donc ils ont construit dans tous les villages où il y a des zapatistes des écoles primaires autonomes, en plus des écoles qui dépendent de l'éducation publique au Mexique, des écoles secondaires aussi, et un système de santé avec ses maisons de santé dans les villages, ses cliniques au niveau régional. Et donc là, il y a des zapatistes qui ont en charge, qui se sont formés petit à petit dans ces différents domaines de la santé, de l'éducation, pour faire avancer à la fois ce système d'éducation et ce système de santé. Et tout ça sans salaire. Tous les gens qui travaillent là ne sont pas du tout salariés. Ils peuvent éventuellement continuer à cultiver leurs propres terres. Ceux qui sont dans le domaine de la santé, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont vraiment à plein temps dans ce travail. Mais justement, à la fois les communautés les aident, prennent en charge un certain nombre de besoins. Et puis ces formes de travail collectif dont je parlais permettent d'avoir des rentrées financières en vendant un certain nombre de produits à l'extérieur et donc de pouvoir acheter les médicaments, le matériel médical qui est nécessaire. Donc c'est sous la forme en fait d'une contribution, d'une participation à ces travaux collectifs que l'ensemble de la population permet que fonctionne ce système de santé et ce système d'éducation et aussi donc l'ensemble du système politique et de justice qui pour le coup coûte pas très cher parce que c'est des gens qui rendent ces services à la collectivité de manière rotative sur des temps relativement courts et en continuant à leur vie par ailleurs leur vie comme ordinaire de membres ordinaires des communautés et des villages zapatistes.